Bonjour, donc je me présente, moi je suis Thibault Raginel, je suis chef de clinique du département de médecine générale de l'UFR Santé de Caen. Et donc on m'a demandé de modérer cette première session pour présenter le travail de Raphaël. Concernant mes liens d'intérêt avec la présentation de Raphaël, du coup, moi j'ai été en stage aussi aux urgences SAMU SMUR de Saint-Lô. Voilà, donc je connais un petit peu le département de la Manche, mais je ne connaissais pas du tout les infirmiers sapeurs-pompiers de la Manche avant ça. Je te remercie de ta présentation. On va en reparler tout de suite. Je vais laisser André se présenter.
Bonsoir. Bonsoir. Donc moi je suis docteur André Rabiaza, je suis également chef de clinique au département de médecine générale et de UFR Santé de Caen. Je remercie également d'abord la bibliothèque universitaire pour avoir organisé ce cycle de conférences et Raphaël pour sa présentation. Je n'ai pas de lien d'intérêt, je ne connaissais pas du tout l'existence des infirmiers sapeurs-pompiers. Je voulais pour commencer cette partie de questions-réponses, tu reviennes un petit peu sur ton parcours et sur ce qui t'a amené surtout à ton sujet de thèse. Pourquoi avoir parlé des infirmiers sapeurs-pompiers? Pourquoi le choix de la douleur thoracique?
D'accord. Oui, c'est bon, j'ai mon micro. Ben, en fait, j'étais dans une période où justement, début d'internat, on commence à se poser des questions sur sa thèse, parce qu'évidemment, il faut faire une thèse. Et je n'avais vraiment pas d'idée. Et quand je suis arrivé effectivement chez les sapeurs-pompiers, j'ai eu la chance de rencontrer le médecin-chef des sapeurs-pompiers de la Manche, le colonel Norbert Berginia, qui m'a proposé de travailler justement sur un thème de recherche qui concernait les sapeurs-pompiers. Et donc, évidemment, bah, ça ne pouvait pas mieux tomber, parce qu'effectivement, j'avais une marge de manœuvre assez importante sur éventuellement un thème. Et en l'occurrence, effectivement, dans la Manche, le développement des infirmiers sapeurs-pompiers est très important. Et comme il s'agit, à mon sens, d'une évolution, enfin du moins d'un principe de la paramédicalisation qui va de plus en plus se développer en France, il m'a paru très intéressant de mettre ce thème en exergue et de faire justement une thèse pour justement faire découvrir un peu le métier d'infirmier sapeur-pompier. Alors, les urgences coronariennes, ça en a découlé puisque l'infirmier sapeur-pompier, un des points forts, c'est qu'il fait des électrocardiogrammes. Et les électrocardiogrammes, la plupart du temps, ils ont un intérêt dans la prise en charge des syndromes coronariens aigus, des syndromes coronariens à la phase aiguë, notamment pour le diagnostic. Donc, ça me paraissait logique de faire une thèse sur les infirmiers sapeurs-pompiers avec le thème de l'urgence coronarienne et puis un thème effectivement de médecine d'urgence, puisque c'était justement une discipline qui m'intéressait. Donc, ça s'est goupillé, si je puis dire comme ça. Et en fait, eh bien, le timing était parfait. Voilà.
J'avais une deuxième question. Tu nous as montré la carte des ISP, des infirmiers sapeurs-pompiers dans la Manche. Est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots la répartition des SAMU
D'accord.
dans la Manche?
Donc les SAMU dans la Manche sont actuellement rattachés donc à des centres hospitaliers. Alors, il faut bien différencier les SAMU et les SMUR, puisque le SAMU 50, qui est donc l'organisme qui gère justement la médecine d'urgence préhospitalière, se situe à Saint-Lô. Par contre, les SMUR sont des unités mobiles hospitalières, des unités d'urgence qui sont localisées au niveau des centres hospitaliers, que ce soit Cherbourg, donc Granville, Avranches, Coutances, Saint-Lô, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Valognes existait jusqu'à maintenant, mais vient de fermer. Donc ça pose vraiment un problème parce qu'effectivement, on voit dans la Manche disparaître de plus en plus les SMUR. Donc ils ont disparu à Valognes. À Coutances, le service d'urgence ne fonctionne plus à ses capacités maximales. On peut se poser la question si dans quelques années le SMUR de Coutances ne va pas lui non plus disparaître. Et effectivement, donc les SMUR sont, pour répondre à ta question, sont localisés au niveau des principaux centres hospitaliers de la Manche. Mais ils sont bien évidemment beaucoup moins nombreux que les unités d'infirmiers sapeurs-pompiers avec leurs véhicules qui peuvent partir au chevet des patients.
Et du coup, qui déclenche l'infirmier sapeur-pompier, pardon. Tu nous as dit que l'infirmier sapeur-pompier peut éventuellement redresser le diagnostic. Mm-hmm. Donc pour ça, il faut qu'il soit déclenché sur un diagnostic spécifique, par exemple sur la douleur thoracique. Mm-hmm. Tu nous as dit, enfin, tu ne l'as pas dit, mais je l'ai lu dans ta thèse, que des fois, l'infirmier sapeur-pompier arrive sur place pour tout à fait autre chose, et se retrouve face à une douleur thoracique angineuse, évocatrice de syndrome coronarien aigu. Et des fois, justement, il est sur place pour ça, et découvre toute autre chose.
Tout à fait. Alors, c'est que la question est très intéressante. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de m'y attarder dans le topo. En fait, l'infirmier sapeur-pompier, il est déclenché ou par le CODIS, qui est donc le centre de traitement des appels, le CTA CODIS, le centre de traitement des appels du SDIS, ou par le SAMU. Lorsqu'une personne a une douleur dans la poitrine, elle a deux possibilités, ou appeler le 15, donc le SAMU, ou appeler le 18. Lorsqu'elle appelle le 18, évidemment, le CODIS, le CTA CODIS répond, et les personnes du CTA CODIS sont formées à déceler à l'appel une potentielle urgence médicale. Lorsque l'urgence médicale est décelée par les membres du CTA CODIS, le CTA CODIS passe d'emblée le relais par interconnexion au SAMU, c'est-à-dire qu'il passe tout de suite le patient au médecin régulateur du SMUR, enfin du SAMU. Voilà. À partir de là, le médecin du SAMU a le choix ou de déclencher une ambulance toute simple s'il considère qu'il n'y a pas d'urgence immédiate, ou de ne rien faire, ou de déclencher un SMUR, effectivement, donc une unité mobile qui va se rendre auprès du patient, ou de déclencher un ISP. Voilà. Donc c'est le médecin du SAMU qui peut le faire. Il faut savoir aussi que le médecin du CODIS, enfin, pardon, pas le médecin du CODIS, mais les personnes qui reçoivent l'appel au CODIS peuvent eux-mêmes, d'emblée, déclencher un ISP s'il y a une urgence avec des critères particuliers de gravité. Et il peut d'emblée envoyer l'ISP, quitte à ce qu'il soit, sur le cours du trajet, annulé, lorsque, effectivement, entre-temps, le médecin du SAMU a considéré qu'il n'y avait pas besoin d'ISP. Et ça, c'est ce qu'on appelle un départ réflexe. C'est-à-dire que la personne du CODIS peut engager de façon réflexe un infirmier sapeur-pompier sans avoir l'aval du médecin régulateur du SAMU. Voilà.
D'accord, merci. C'est vrai que ton sujet, du coup, il est vraiment au carrefour de la pluriprofessionnalité en médecine générale, voire de la transprofessionnalité.
Après, force est de constater que dans la Manche, très clairement, les gens qui ont une urgence médicale, qui souffrent de quelque chose, ne sont pas pris également en fonction des différents endroits de la Manche. Donc, que les SMUR ferment, effectivement, comme vous dites, il y a une retransmission des dépenses sur autre chose. Après, à un moment donné, on se met à la place du patient. J'ai une douleur dans la poitrine. Moi, je suis bien content qu'effectivement les ISP soient un petit peu plus nombreux pour suppléer les SMUR qui sont plus dispo à Valognes. Moi, ce qui compte, c'est que quelqu'un vienne me voir et vienne me prendre en charge. Alors, effectivement, il y a des problèmes de budget, et ça, que ce soit d'ailleurs à l'hôpital public ou dans les SDIS, c'est exactement pareil, finalement. Mais effectivement, je considère que dans l'immédiat, le développement des ISP dans la Manche est le bienvenu. Par rapport justement à la diminution du nombre de SMUR, à la disparition des SMUR, parce que d'après ce que j'ai compris, le SMUR de Valognes a fermé, mais le primaire de Valognes va revenir sur Cherbourg, a priori. Donc, parce qu'il y avait une volonté justement que les SMUR remontent sur Cherbourg. Bon, effectivement, la personne qui fait son infarctus à côté de Valognes, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose au niveau du délai qu'un SMUR vienne de Valognes, c'est-à-dire 5 minutes pour arriver, ou qu'un SMUR vienne de Cherbourg, 15 à 20 minutes. Donc, effectivement, l'arrivée des ISP de ce point de vue-là me paraît de bon augure, de ce point de vue-là. L'ISP a la possibilité, par exemple, par rapport à ses protocoles, de déjà perfuser le patient, de déjà donner, par rapport au kit dont je parlais, kit urgence coronarienne, de déjà donner de l'aspirine, du ticagrelor, éventuellement faire une injection d'anticoagulant. D'accord. Et alors, ce qu'il faut préciser, ce que je tiens à préciser, c'est que le kit urgence coronarienne fait partie, enfin, est un kit qu'ont les infirmiers, mais il a la particularité de n'être injectable que sur demande du médecin. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à un protocole d'infirmier de soins d'urgence, où l'infirmier peut de lui-même, sans avoir l'avis du médecin, mettre en place son protocole, le kit urgence coronarienne, lui, n'est administré au patient que sur demande du médecin régulateur du SAMU. J'avais peut-être pas été assez clair tout à l'heure. Effectivement, ça fait partie des exceptions par rapport à tout ce dont je vous disais, ticagrelor, toutes ces choses-là. Par contre, pour les autres protocoles, je pense que le colonel me rejoindra là-dessus, le protocole est fait justement pour que l'infirmier puisse, dans un cadre légal très précis, mettre en place des soins aux patients sans attendre l'avis du médecin. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Hein. Eh bien, ça dépend des situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations où le SMUR va se rendre sur place et partir avec le patient dans un centre de coro. Et il y a des situations où, effectivement, sur une carence de SMUR, si le SMUR n'est pas disponible, eh bien, le médecin va pouvoir aller jusqu'à demander à un infirmier de prendre la route pour aller vers un centre de coro, en gardant un contact radio permanent avec l'infirmier sapeur-pompier, justement pour pouvoir éviter cette perte de temps. Mais après, chaque situation, c'est chaque situation qui détermine un petit peu la prise en charge, finalement. Alors, comme je disais tout à l'heure, le médecin généraliste n'appelle pas l'infirmier sapeur-pompier en tant que tel, il appelle le CODIS, il appelle les pompiers, enfin du moins le médecin. Il dit, voilà, j'ai un patient qui a une douleur dans la poitrine, suspecte d'infarctus du myocarde, enfin du moins de douleur angineuse. Et après, c'est effectivement le SAMU qui décide, immédiatement on nous passe le médecin régulateur, et c'est le médecin régulateur du SAMU qui décide d'envoyer un ISP, parce qu'il y a déjà un médecin sur place quelque part, enfin en même temps le médecin il ne va pas quitter ses consultes pour emmener le patient à l'hôpital, de toute façon, ou d'envoyer d'emblée un SMUR. Donc c'est comme ça que ça se décide, en fonction du personnel disponible, parce que des fois il n'y a pas d'ISP disponible aussi, ça peut arriver, hein, qu'il soit parti sur une autre inter. Hein. Ou alors, il faut le temps qu'il vienne, parce que du coup, on déclenche un ISP qui va être plutôt à 50 km, donc il faut le temps qu'il monte. Et parfois, il est plus rapide de faire partir un SMUR qu'un ISP. C'est-à-dire, ça dépend un petit peu des situations, c'est très patient-dépendant, et voilà.
J'allais poser la question des sages-femmes, justement. Parce que dans ta thèse, il y a une sage-femme qui t'a aidé pour la méthodologie.
Oui.
Alors, et c'est une sage-femme du SDIS.
Oui. Au SDIS, on a la possibilité d'avoir des experts, c'est-à-dire des personnes qui donnent effectivement leur avis, donc leur avis d'expert dans une discipline, aux médecins du SDIS, ou aux 3SM en général, aux services de santé. En l'occurrence, cette personne, donc Pauline Lenellet, est experte sage-femme au SDIS de la Manche. L'avantage, c'est qu'elle effectivement donne son expertise sur tout ce qui est pathologie obstétricale, hein, gynécologie, toutes ces choses-là. Et en l'occurrence, fait de la recherche, elle est doctorante dans une autre discipline que la maïeutique. Et a une solide base méthodologique, hein, et a pu justement me donner tes conseils dans le cadre de ma thèse. Après, ça n'avait rien à voir effectivement avec la maïeutique, hein, très clairement. Voilà. Mais ça peut être des experts psychologues, ça peut être des experts... un expert par définition, ça peut être n'importe quelle discipline. Ça fait aussi partie des particularités justement des protocoles qu'il faut vraiment bien encadrer et bien... C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les infirmiers anesthésistes peuvent faire de l'intubation. Donc il y a une sorte de sélection dans les protocoles. Si on est infirmier normal, non anesthésiste, eh ben, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Hein, Et si on est infirmier anesthésiste, eh ben, dans certaines situations, il y a des choses qu'on a l'autorisation de faire dans le cadre des protocoles. Effectivement, c'est aussi vraiment très bien qu'on puisse mettre à profit ces compétences particulières. Parce que c'est tout bénef, entre guillemets. Pour le patient, quoi.
On est en plein dans la réponse graduée aux urgences par des non-médecins que tu nous évoquais tout à l'heure. Et à vous écouter, j'ai l'impression que finalement, la force des infirmiers sapeurs-pompiers en France, c'est d'être couvert, entre guillemets, par le corps des sapeurs-pompiers, qui est une entité qui permet un certain soutien, qui permet de développer des infirmiers de soins d'urgence, qui sont plus développés dans les pays anglo-saxons au sein des paramédics, avec les différents grades de réponse aux soins d'urgence. Et pourquoi on ne pourrait pas envisager en France que on ait toujours des ambulanciers qui soient entre guillemets le grade 1 du recours aux soins d'urgence, et puis après des infirmiers, mais qui ne soient pas forcément des infirmiers sapeurs-pompiers, qui appartiennent à une autre entité, qui puissent intervenir à la demande du SAMU ou du CODIS, sans être forcément sapeurs-pompiers.
Tout à fait. Donc en fait, ce que vous mettez en évidence, c'est effectivement le... Pourquoi justement ne pas passer un peu au système des paramédics des pays anglo-saxons? Bon, effectivement, vous proposez une révision de fond du système. Alors, ce n'est pas facile à faire bouger. On a eu déjà, concernant les infirmiers et sapeurs-pompiers, pas mal de difficultés à mettre ça en place. Enfin, je veux dire, par rapport, comme je vous disais, notamment, malheureusement, aux querelles un peu de chapelle entre les SAMU, les SDIS, qui, je trouve, en tout cas pour la Manche, sont vraiment en train de s'apaiser et le SDIS et le SAMU fonctionnent vraiment de façon complémentaire et constructive. Après, effectivement, ça pose cette question de la mise en place de paramédics sur le territoire français. Là, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Je ne sais pas, en fait... qu'est-ce qu'il faudrait faire de particulier pour mettre en place tout ça? Après, effectivement, ça demande aussi beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'effectivement, dans la Manche, toutes les hypos, enfin l'extrême majorité des hypoglycémies chez le diabétique, hein, qui peuvent très, très, très clairement être mortelles, hein, létales, la quasi-majorité des hypoglycémies sont prises en charge par les infirmiers sapeurs-pompiers, hein, très clairement. Et que les primaires du SMUR dans la Manche ne sortent plus, à l'inverse, sur des hypoglycémies. Et ils sortent peut-être au même moment sur un arrêt. Et là, effectivement, un arrêt cardiaque. Et là, effectivement, c'est ça aussi la plus-value. C'est que le SMUR est disponible pour d'autres urgences vitales. Donc c'est très important.
Je voulais signaler que c'est vrai qu'on est en plein sur l'interdisciplinarité et la pluriprofessionnalité, que là, on parle de médecine d'urgence, mais qu'on a parfois des petite problématique sur des cas plus de médecine générale et quotidienne, sur la gestion du diabétique ou de l'insuffisance cardiaque, et qu'il y a là aussi parfois des petits problèmes réglementaires sur la limite entre l'infirmier et le médecin. Je voulais juste faire une petite remarque sur le début de ta présentation, concernant l'intérêt du Master 1. Je sais qu'il y a des étudiants en médecine. Le Master 1 sert aussi en médecine générale, alors qu'on n'est pas hospitalier, pour des carrières, pour faire de la recherche, pour faire une carrière universitaire, tout en ayant une activité non hospitalière, purement ambulatoire. C'est notre cas à nous, et que voilà, c'était la petite remarque.
Ah, oui, excusez-moi, je voudrais juste ajouter, effectivement, pour moi, c'est évident, hein, que je parlais de la... pour les personnes qui veulent se diriger vers la recherche, mais la recherche, effectivement, le département de médecine générale est là pour le montrer, c'est que c'est pas forcément uniquement pour les personnes qui sont hospitaliers purs, c'est aussi pour, effectivement, des médecins généralistes comme vous, des chefs de clinique. Et et par rapport à justement au Master 1, ce qui me faisait penser que ça n'avait pas beaucoup apporté, c'est que le problème, c'est que les UES, les unités d'enseignement dans les facs, notamment à Caen par exemple, à l'époque, c'était que certaines UES. Et en l'occurrence, moi j'ai fait des UES de pharmacie. Donc je suis allé faire quelque chose, une UES sur la conception du médicament à la faculté de pharmacie. Donc effectivement, très intéressant. Très intéressant. Mais après, est-ce que très clairement ça me sert dans ma pratique de tous les jours de médecine générale? Voilà, c'était de ce point de vue-là. Après, c'est clair que j'ai fait aussi un autre UES de pharmacologie, donc ça m'a par contre aidé pour la médecine générale. Il s'agissait d'une ES sur tout ce qui est iatrogénie médicamenteuse, hein, c'est-à-dire les risques des médicaments. Donc ça, c'est très très important. C'est notre pratique de tous les jours de faire attention quand on donne un médicament, de peser le bénéfice et le risque de donner une molécule chez un patient, surtout quand on a des ordonnances de 15 médicaments. Hein, donc c'est vraiment très important. Et puis j'ai terminé mon stage de Master 1, un stage en anatomopathologie, donc effectivement très intéressant aussi. Après, lorsqu'on est dans un cabinet de médecine générale ou quand on fait l'activité de médecin sapeur-pompier, bon, la conception du médicament avec les nanoparticules et les choses comme ça, bon, voilà. Alors, concernant les infirmiers sapeurs-pompiers, dans la recherche bibliographique, bon, il y a toute la partie effectivement recherche dans les bases de données informatiques. Hein, donc, j'ai mis des mots-clés tels qu'effectivement les sapeurs-pompiers en général, les ISP. Il y a quelques tests qui ont déjà été faits par certains médecins, hein, notamment des médecins généralistes, sur l'efficience des ISP, notamment. Alors, je ne sais pas si la personne qui vient de Nantes, monsieur, il y a eu une étude qui a été faite par un médecin de thèse sur l'efficience des ISP ou du secours préhospitalier. Peut-être, je ne sais plus exactement. Il y a eu des tests qui ont été faits déjà sur les infirmiers sapeurs-pompiers et des tests aussi globalement sur les sapeurs-pompiers en tant que secouristes. Donc déjà, je me suis basé un petit peu là-dessus, voir un petit peu ce qu'on pouvait avoir. Après, la problématique, c'est vrai que la problématique importante, c'était aussi la problématique de la télétransmission des électrocardiogrammes et l'intérêt, enfin la plus-value de la télétransmission dans le gain de temps de prise en charge préhospitalier des syndromes coronariens. Alors là, par contre, il y a de la littérature, et de la littérature notamment anglo-saxonne, sur justement, des études justement de cohortes qui ont été réalisées, ou des études comparatives sur les délais préhospitaliers et par rapport à la mortalité à plus ou moins long terme. Donc là, j'avais effectivement des bases là-dessus, des études notamment assez disparates d'ailleurs, parce qu'il y avait des pays anglo-saxons, mais il y avait une étude polonaise, il y avait une étude italienne, il y avait une étude, voilà, il y avait quand même pas mal d'études sur le sujet. Donc, de ce point de vue-là, j'ai eu de la matière. Voilà.
Ok. Donc, du coup, il y a eu de la matière sur la partie douleur thoracique, d'avancée et...
Télétransmission. Mais effectivement, à partir du moment où c'est un des intérêts très importants des infirmiers, la télétransmission, bon, il était évident qu'il fallait que j'en fasse une partie de ma thèse. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, il y avait matière. Après, par rapport aux études sur les ISP, à ma connaissance, il n'y a pas énormément d'études de grande ampleur réalisées en France par rapport à ça. Et les études qui sont le plus souvent faites, effectivement, dans chaque SDIS, ce sont des études descriptives, un petit peu pour décrire le fonctionnement d'un système dans un département en particulier ou dans une région. Pour montrer effectivement un intérêt, c'était aussi un petit peu le cas de ma thèse, une plus-value. Mais voilà, à part les études descriptives, on est encore un petit peu au balbutiement des études sur la paramédicalisation ou les secours d'urgence préhospitaliers par les paramédicaux en France.
Donc en fait, tu nous dis là qu'il n'y a plus qu'à faire une étude avec une méthodologie
tout à fait, une méthodologie
adaptée pour
exactement.
Valider ou pas voilà. L'intérêt des...
Voilà, tout en arrivant justement à ce que tous les SDIS puissent effectivement mettre en place une étude avec toutes les difficultés. Comme l'a dit mon collègue, justement, des fonctionnements assez disparates dans chaque SDIS. Pour mettre en place une étude, il faut avoir quand même des fonctionnements communs sur certaines choses. Et là, bah, c'est pas toujours facile à mettre en place. Mais bien sûr, il y a des fonctionnements communs quand même dans les SDIS, heureusement.
Et du coup, dans ta thèse, il y a beaucoup de choses. Il y a une description des SDIS, il y a une étude de cas. Il y a une étude où tu relèves un petit peu les temps d'intervention et tu regardes un petit peu si tu as une différence significative. Tu nous dis aussi à un moment dans ta thèse que tu as fait une revue de la littérature. Tout ça, ça demande quand même pas mal de conseils méthodologiques pour l'étude, pour ton étude statistique, pour ta revue de la littérature. Tout ça, tu l'as fait avec ton bagage de médecine, de master 1, tu as eu des ressources externes.
Alors, c'est une bonne question. Donc, effectivement, sur la méthodologie, donc, il y a eu Madame Lenellet, effectivement, qui m'a donné de précieux conseils. Après, sur les études descriptives, l'étude de cas, effectivement, je me suis basé sur mes reliquats, on peut dire ça comme ça, de statistiques de médecine. Hein, parce que, très honnêtement, j'avais retenu des notions assez générales sur les différentes études statistiques. J'ai effectivement repris des polycopiés effectivement de statistiques. Je me suis bien évidemment replongé là-dedans et c'était indispensable. Et voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un petit peu avec mes bagages, avec mes conseils et puis en reprenant les données, voilà, les données décrites dans les polycopiés, quoi, de statistiques. Après, effectivement, je n'ai pas eu recours aux statisticiens du CHU, si c'était la question. Non.
Ah non, hors le CHU, point de salut, c'est ça? Non, il y a des statisticiens en dehors du CHU, il y a des statisticiens partout dans
Oui, tout à fait.
l'université, dans
Non, tout
plein
à
de
fait.
filières, et je sais que j'ai des thésards qui vont voir en maths, qui vont voir en bio, qui vont voir même dans l'UFR Santé, il y a pas mal de gens qui en font un peu. Et pour ta revue de la littérature?
Pour la littérature, bah, je l'ai réalisé tout seul avec justement la revue électronique, effectivement, avec Internet, avec tout ça. Et puis je suis venu aussi à la BU pour consulter un certain nombre de documents. Voilà. Et puis aussi, bien évidemment, avec les apports qu'ont pu me donner les membres du 3SM au SDIS, puisque, je veux dire, les médecins du SDIS, les infirmiers du SDIS avaient aussi, bien évidemment, de la littérature sur le sujet. Hein. C'est normal. Et du coup, effectivement, ils m'ont fourni les articles qu'ils avaient en leur possession, parce qu'effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de choses sur les infirmiers sapeurs-pompiers en France, mais les études qu'ils avaient, et notamment les études dans la Manche, hein, parce que notamment pour le recueil de données, d'ailleurs, je remercie beaucoup le médecin-chef de la Manche, parce que j'ai vraiment eu accès justement aux données du SDIS, bien évidemment sous couvert de l'anonymat des patients, voilà. Mais j'ai vraiment eu accès à toute une base de données. C'est exceptionnel. Enfin, vraiment, il n'y a pas beaucoup de thésards qui ont la possibilité de retrouver, d'avoir des extractions de données que peuvent faire. Notamment une structure comme les SDIS, où ils peuvent recueillir des données, faire des extractions sur des thèmes particuliers pour des analyses statistiques. Et ça m'a particulièrement aidé. Ça, c'est clair.
Donc pour tes équations de recherche, tu t'es débrouillé tout seul comme un grand avec tes reliquats de master 1
C'est ça.
et d'études en médecine. D'accord.
Après, très clairement, mon objectif était vraiment de mettre en évidence les intérêts des sapeurs-pompiers. Je ne souhaitais pas non plus absolument m'attarder dans des études statistiques qui finalement, bon, déjà encore une fois parce que j'en avais pas le temps, mais qui finalement ne m'auraient pas donné grand-chose puisque j'avais justement des cas vraiment concrets, des cas précis à présenter. J'avais effectivement un recueil de données provenant d'extraction de bases de données du SDIS. Je ne souhaitais pas très clairement m'engager dans des études vraiment poussées, avec des intervalles de confiance particulièrement avec des P inférieurs à 0,00001, hein, donc au niveau de la significativité statistique. Ce n'était pas mon objectif. Moi, c'était vraiment de montrer quelque chose, quoi. De montrer quelque chose.
D'accord, mais du coup, c'est vrai que tu me disais, bah, tu avais été un peu finalement limité par ton recrutement du 10-50. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça t'a pas donné envie, par exemple, de te dire, bah, je vais aller prendre 10, 50, 14 et 61, leur demander la même extraction de données, rebétonner un peu ma méthodologie et me dire, bah, voilà, si j'arrive à prouver que mes infirmiers, sapeurs-pompiers, ils interviennent 10 minutes plus rapidement que les SMUR quand on les déclenche, ça va pas donner lui envie justement à l'ARS de se dire, bah, voilà, on va mettre en place une expérimentation, recruter
Je pense
20
que
infirmiers dans
dans
chaque
chaque
département
département,
et
je
voir
pense
ce
que
qu'on
très
apporte.
clairement, c'est une méthodologie et ce sont des études à envisager, mais qui, pour moi, n'étaient pas gérables dans le cadre d'une thèse d'exercice de médecine, beaucoup trop difficile, avec beaucoup trop de petites choses à régler avant, avec encore une fois des SDIS, effectivement, qui fonctionnent parfois différemment, et ça me paraissait vraiment trop lourd à gérer. Parce qu'encore une fois, quand on a une thèse à rendre dans les 7 mois, parce que justement, je veux dire, on souhaite après entrer dans la vie active, on est obligé de faire des choix. Et par contre, très clairement, je pense que il faudrait que, peut-être en se concentrant sur quelque chose, sur un sujet un peu plus précis, je pense par exemple au délai par rapport aux électrocardiogrammes, au délai appel, ça, je pense que ça pourrait être, par exemple, un sujet d'une thèse d'un étudiant en médecine, mais qui ne ferait que ça, qui ne ferait un sujet que sur la télétransmission des électrocardiogrammes, avec justement le recrutement de plusieurs SDIS, hein, justement, avec plusieurs bases de données, plusieurs choses comme ça, pour pouvoir avoir un nombre significatif de cas. Je pense que c'est quelque chose qui peut totalement être envisagé, par contre, mais pas dans mon propre timing, en l'occurrence.
D'accord, j'entends bien. Et du coup, c'est vrai que toi, tu avais un timing serré, si j'entends bien, de 7 mois.
C'est ça, à peu près.
Le DES de médecine générale, c'est 7 mois à 3 ans.
Ouais.
Est-ce que ça t'a pas donné, toi, envie, par exemple, de te dire, bah, j'ai pas pu aller aussi loin, je vais aller à la fac de médecine, recruter des internes dès leur première année, et leur dire, venez avec moi, on va bosser ensemble sur une thèse sur 2 ans, 2 ans et demi. Et sur un sujet que je connais, dont je vais pouvoir vous initier au sujet, vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir aller plus loin avec mon expérience que je vais vous retransmettre en vous aidant à diriger cette thèse.
Après avoir fait ma propre thèse, c'est ça? Alors, c'est une chose auquel j'ai pensé. Après, encore faut-il proposer à des étudiants de faire une thèse sur effectivement les sapeurs-pompiers. Moi, c'est quelque chose que je souhaite vraiment faire découvrir, notamment aux étudiants en médecine et autres, même hein, infirmiers, sages-femmes, même vétérinaires, puisqu'il y a des infirmiers, il y a des vétérinaires sapeurs-pompiers. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire découvrir. Après, on a quelques internes qui se sont intéressés depuis quelques années, qui sont venus voir un petit peu au SDIS s'il y avait des possibilités d'études. Et puis, oui, qui ont abandonné. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Après, c'est vrai que la médecine sapeur-pompier, ce n'est pas encore quelque chose qui est très connu. Et quand justement des personnes ont envie de faire leur thèse, de valider leur thèse, entre guillemets, assez rapidement, peut-être qu'ils n'osent pas aller s'engager dans ce, dans, dans, dans cette, dans ce domaine, et qu'ils préfèrent justement rester, se cantonner à des sujets qui leur sont proposés, ou par les professeurs, ou par les chefs de clinique. Même si malheureusement, ce sont, et c'est loin d'être le cas, ce ne sont pas des sujets qui les intéressent particulièrement. Moi, j'ai plein d'exemples d'internes à qui on a donné des sujets, qui les ont acceptés parce qu'ils avaient une thèse à faire et qui devait être validée, donc une thèse d'exercice. Et très clairement, des internes qui me disaient, mon sujet ne m'intéresse pas. Bon, j'ai eu la chance de faire une thèse sur un sujet qui m'intéressait, hein, vraiment de façon profonde, quoi, vraiment qui m'intéressait vraiment beaucoup. Je pense que je suis un privilégié de ce point de vue-là, par rapport à la thèse, d'avoir fait une thèse sur quelque chose qui m'intéresse. Parce que je connais beaucoup de gens où la thèse, c'est vraiment le pavé qu'il faut rendre et qui leur casse les pieds, très clairement. Hein. Donc voilà, de ce point de vue-là. Mais j'encourage tous les internes, et d'ailleurs, je vous encourage à aller dire en médecine générale, dans le département, que les médecins sapeurs-pompiers, c'est très intéressant et qu'il y a des possibilités de recherche. Hein, et qu'on peut justement conjuguer médecine générale, exercice de médecine générale, et comment fonction de médecin sapeur-pompier, voilà, dans la Manche.
Peut-être pas que dans la Manche, non.
Dans la Manche, non. Dans la Manche et dans le Calvados, bien sûr, parce qu'il y a des infirmiers sapeurs-pompiers dans le Calvados, et dans l'Orne. Mais j'encourage vraiment à faire découvrir aux internes cette discipline, parce que vraiment, et nous, on en a besoin aussi hein, dans les SDIS de médecins sapeurs-pompiers. Les infirmiers sapeurs-pompiers sont relativement nombreux, entre guillemets, même si on manque toujours d'infirmiers sapeurs-pompiers, mais les médecins sapeurs-pompiers sont encore moins nombreux. Donc voilà. Et les médecins sapeurs-pompiers dans la Manche sont tous quasiment des généralistes, à part un ou deux qui sont urgentistes. Mais très clairement, les médecins généralistes dans la, les médecins pardon, sapeurs-pompiers qui sont généralistes ont très peu le temps de se consacrer à la médecine sapeurs-pompiers par rapport à leur activité actuelle. Et donc justement, je pense que c'est intéressant de redonner envie aux internes, avant même le début de leur exercice, d'avoir une sorte de projet pour justement conjuguer cette activité de médecin sapeur-pompier et l'activité de médecine générale libérale. Je pense que c'est aussi faisable, par exemple, de faire un certain nombre de jours dans la semaine de médecine générale et un certain nombre de jours dans la semaine se consacrer à la médecine sapeur-pompier. Je pense que c'est gérable. C'est concevable, en tout cas. Et donc, du coup, on n'attend plus que effectivement les internes, les futurs médecins, oui. Même les externes, parce que les externes peuvent s'engager maintenant, donc les externes aussi. Alors, encore une fois, je voudrais vous remercier, l'équipe d'organisation, de m'avoir permis de venir un petit peu donner quelques informations sur mon parcours et sur la thèse. J'espère que nous, on a tous répondu à des interrogations que vous pouviez avoir. Hein. Et puis, je vous souhaite un bon parcours et puis je vous souhaite de vous recroiser un de ces jours au SDIS de la Manche. Voilà. Et merci encore pour cette très sympathique soirée.